Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Eh bien, la voilà, l'Antiquité vivante, polymorphe, qui nous unit tous, parce que toujours faire du neuf avec du vieux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre sorti le 24 février, donc c'est tout à fait récent. Et nous serons en présence, je les présenterai tout à l'heure, de nos deux invités qui s'appellent Angélique Nouvelle et Flavien Villard, que je salue tous les deux. Bonjour.
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 Alors, nous allons faire un beau trio, je pense, mais avant de présenter votre livre tout nouveau, tout beau, il faut dire un petit mot de cette collection des belles lettres dans laquelle il s'insère, une collection qui nous est chère, lancée en 2015, avec des buts à la fois très simples, très modestes et très ambitieux. Il s'agit de viser la qualité du français, la qualité des langues anciennes et nos racines, c'est-à-dire notre monde judéo-chrétien. Alors, il y a eu d'abord des livres en latin, et j'ai déjà fait plusieurs émissions avec les auteurs de ces livres. Il y a 14 ouvrages en latin avec un gradatim, qui est un manuel d'apprentissage du latin. Et ensuite, le grec, s'est greffé à ce bel ensemble. Et nous avons donc plusieurs volumes en grec, dont Eureka, le grec ancien express, qui est aussi une méthode. Et nous avions reçu son auteur il y a peu, un grapho qui indique comment justement accéder d'abord et avant tout à l'alphabet grec. Alors, dans tous ces ouvrages, eh bien, celui qui nous intéresse aujourd'hui, le tout dernier paru, c'est « Ta Olympia, Perites Thomastes Kallipateiras », c'est-à-dire « Les Jeux Olympiques » ou « L'incroyable histoire de Kallipateira ». Le double titre est important et je reviens du tout à mon idée de faire du nouveau avec l'antique, c'est-à-dire les Jeux Olympiques, c'est vieux comme le monde, mais c'est en même temps très neuf puisqu'on ne parle pas que de ça. Il y a hélas beaucoup d'autres sujets infiniment plus graves dans l'actualité, mais c'est une de nos préoccupations du moment avec ces Jeux Olympiques qui arrivent sur Paris. Donc là, une collection formidable avec un but tout aussi formidable. J'ai oublié de dire que chaque fois, le coût de l'ouvrage est extrêmement modique parce que 9 euros, je trouve que c'est un effort considérable pour mettre à la portée de tous. Et quand je dis tous, c'est vraiment tous parce qu'il y a plusieurs niveaux dans tous ces manuels qui entreprennent à chaque fois, la méthode est la même, de proposer un texte dans la langue ancienne, donc latin ou grec, d'abord dans une version bilingue, puis ensuite dans une version monolingue avec un appareil critique lexical extrêmement important. Alors, j'ai envie de vous demander tout d'abord, avant de parler du livre proprement dit, de vous présenter l'un et l'autre. Alors, Angélique, alors tous les deux, vous êtes des enseignants de lettres classiques. Ça, c'est votre point commun et votre passion commune et notre passion commune. Mais est-ce que vous pourriez, Angélique, rapidement vous présenter à nos auditeurs?
Oui, alors bonjour. Eh bien, donc effectivement, je suis enseignante de français, latin, grec. Et oui, je suis passionnée par ces matières-là, je pense comme Flavien. J'enseigne en lycée actuellement. Et voilà, que vous dire de plus
Donc vous voilà, êtes dans le gros labeur qui consiste à gérer à la fois des secondes, des premières en français, en latin.
Oui, c'est exactement ça. J'ai des secondes et des premières en français. Et j'ai tout le latin au lycée cette année. Et peut-être je retrouverai le grec l'année prochaine. On partage avec ma collègue.
Et oui, il faut une alternance. Et j'ai lu en faisant des recherches sur vous que vous avez une prédilection, quelle que soit la langue, pour la poésie.
J'aime bien, oui. J'aime beaucoup.
D'accord. C'est vrai. Et alors, vous enseignez à quel endroit?
J'enseigne à Marseille.
D'accord. Donc, ce n'est pas trop loin de nous, ni moi. Et puis Flavien, donc aussi enseignant lettres classiques, aussi en lycée, mais vous enseignez aussi en classe préparatoire, je crois.
Oui, c'est ça. J'ai une répartition de services à la fois en lycée et en classe préparatoire. Au lycée, c'est comme Angélique, c'est le français, la littérature et le latin. Et en classe préparatoire, c'est le grec ancien. Et je suis aussi intégré dans un laboratoire de recherche en histoire ancienne à Paris, dans laquelle j'ai fait ma thèse. Et donc, je suis toujours membre associé, qui est le laboratoire Anima.
Voilà, alors j'avais lu ça, j'allais vous demander ce que ça veut dire anima, mais c'est peut-être un peu compliqué.
Ah oui, ce nom, c'est très rapide, c'est Anthropologie et Histoire des mondes anciens. Voilà, c'est un
D'accord.
acronyme pour faire ça.
Très bien. Et donc, vous travaillez dans ce laboratoire, non pas avec des
Oui.
épuisettes et tous les
Non.
instruments scientifiques
Non,
habituels,
non.
mais vous
Non, non,
étudiez tout ce qui est nouveau en matière d'histoire ancienne, si je puis dire.
Oui, c'est une unité mixte de recherche qui comprend plusieurs universités et éléments de recherche, et on est dans des axes différents de développement. Voilà, donc oui, non, non, c'est une unité de recherche en histoire ancienne.
Alors, j'ai lu en ce qui vous concerne que vous avez une mère professeure de lettres classiques et donc que vous êtes
Ah
tombée dans
oui.
la marmite il y a très très longtemps.
Oui, j'ai baigné dans le grec et le latin, et il faut lui rendre grâce, puisque c'est grâce à elle, hein, c'est vrai, depuis tout petit. Et en ayant eu en plus une sœur aînée que ma mère a fait aussi baigner en avance, j'ai été très tôt dans les deux langues assez jeune. Oui, non, c'est vrai.
Alors, vous, les auteurs que, je suppose que tous les auteurs, mais particulièrement Pindare et Aristophane, vous intéressent?
Oui, c'est vrai. Alors, Pindare, c'est par rapport à mes études. Hein. C'est vrai que comme j'ai beaucoup travaillé sur l'athlétisme masculin ou féminin et que j'ai commencé sur ça, Pindare, c'est un poète qui a fait des épinicies, c'est-à-dire des odes de victoire pour des athlètes. J'ai travaillé sur le texte de Pindare, donc je pense que j'ai développé un goût pour lui parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Et après, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé aussi enseigner Aristophane et faire des. On faisait des colloques de doctorants aussi sur des lectures suivies d'Aristophane. Et je dois avouer que c'est le texte comique que je trouve le plus intéressant à faire en grec parce que c'est là où il y a des jeux de mots qu'on comprendrait absolument pas si on n'étudie pas le grec dans sa profondeur et qu'on découvre. Et là où on voit vraiment une langue et une société où on a des gens qui rient énormément et sur des blagues que l'on ne comprend plus forcément. Et c'est le plus intéressant, c'est de les reconstituer.
Oui, et du coup, d'accéder, parce que ce théâtre populaire nous
Oui,
permet d'accéder au
bien
réalia
sûr.
dans ce que ça a de plus évident.
Oui, tout à fait. Par ailleurs, oui.
Alors, vous êtes intéressé de par votre thèse aussi, et on va voir que ça n'est pas sans incidence sur l'ouvrage d'aujourd'hui, sur les représentations et pratiques athlétiques féminines en Grèce ancienne, pardon. Et évidemment, tout ça, tout ce que vous avez dit, Angélique, tout ce que vous avez dit, Flavien, se retrouve tissant ce livre consacré aux Jeux olympiques. Alors, une autre question, après, évidemment, il faudra parler du livre proprement dit. Comment s'est fait votre rencontre? Comment est né ce projet? Qui en a eu l'idée? Enfin, comment ça s'est fait?
Alors, je vais peut-être laisser parler Angélique parce que c'est elle. Donc, honneur à elle.
Merci. Alors en fait, quand j'ai découvert la collection, très rapidement, je me suis dit que oui, ça serait vraiment très très intéressant d'y participer. Et donc j'ai contacté Laure de Chantal, l'éditrice.
Oui, alors j'ai oublié de signaler son nom puisque c'est elle qui gère cette collection, oui.
Voilà. Et donc tout d'abord par mail, alors elle a été très réceptive tout de suite et elle m'a demandé si j'avais des idées. Donc je lui en ai donné de très très nombreuses. Et puis finalement, on a convenu d'un rendez-vous téléphonique dans lequel, là, j'ai compris que les Jeux Olympiques, elle n'avait personne pour les écrire et que, voilà, si ça m'intéressait, c'était tout à fait possible. Je me suis évidemment enfin, lancée dans ce projet. Et en fait, ce qui est très enfin, symbolique, c'est que le soir même, j'étais invitée à une conférence par bah, Josiane Vilar, qui est donc, on en a parlé tout à l'heure, la maman de Flavien. Et à une conférence dans laquelle Flavien nous parlait donc effectivement des représentations athlétiques dans l'Antiquité, représentations athlétiques féminines. Et alors évidemment, tout de suite, je lui ai parlé du projet, je me suis dit que c'était le binôme idéal. Et là, il a été plutôt enthousiaste.
Et alors, ça n'a
Oui,
pas
je
dû être.
confirme.
Ça n'a pas dû être évident. Donc, évidemment, il y a interaction dans vos deux travaux, mais est-ce que chacun avait sa part? Est-ce que vous avez tout fait ensemble? Enfin, j'ai ma petite idée sur la question parce que j'ai lu des tas de choses que vous avez déjà et j'incite les auditeurs à faire de même, lu ou entendu sur le site des Belles Lettres, hein, parce que j'ai effectivement appris beaucoup de choses concernant votre travail. Donc, comment ça s'est fait?
Alors, en fait, bon, on est parti de l'idée de départ de effectivement raconter le déroulement des Jeux Olympiques. Donc j'avais commencé un petit résumé, mais voilà, il manquait quelque chose. Enfin, je trouvais ça assez plat. Et là, Flavien est arrivé et a eu une idée géniale au sens étymologique du terme. Et donc, bah voilà, c'était de passer par Kalipateira, donc la petite histoire pour rejoindre la grande. Et puis là, tout s'est enchaîné, pardon. Donc, alors au début, on a plutôt réparti. J'ai écrit l'histoire en grec et sa traduction, enfin en tout cas en gros. Flavien écrivait les enrichissements et ensuite il a repris tout ce qui était bah, de l'histoire grecque, etc., pour corriger, ajouter, amender, etc.
Alors ça
Ça
donne.
s'est fait très naturellement. Non, c'est vrai que ça s'est fait très naturellement, en fait. Bon, Kallipatera, moi, c'était une histoire que j'avais vue par ma thèse. Alors, je n'en ai pas parlé dans ma thèse parce que c'est une histoire d'une femme qui est spectatrice, hein, qui n'est pas actrice. Donc, ce n'était pas mon sujet de thèse, mais sur lequel j'avais parlé. Et je me suis dit, ça correspond tout à fait à ce qu'Angélique veut faire. Donc, il faut absolument que je lui propose. Et on est partis tous les deux ensemble. Et c'est vrai qu'après, la répartition a été très souple. Angélique. C'est très bien occupé en fait de la construction des chapitres, de la rédaction, et on était régulièrement en échange pour être sûr que ça marchait ensemble. Mais bon, ça marchait très bien, hein, donc il n'y a pas de souci. Et finalement, moi, je faisais mon travail d'historien, et après, on a échangé un peu les rôles. C'est-à-dire que je relisais le grec parce qu'on est tous les deux en double casquette, et elle relisait aussi les points que j'avais faits sur l'étymologie ou sur les enrichissements de civilisation parce que. Elle connaissait la civilisation grecque et qu'évidemment le but c'était que ce soit utilisable par nous enseignants. Donc elle en est une.
Oui, alors vous parlez des chapitres, je signale qu'ils sont non pas numérotés, je ne sais pas comment il faudrait dire, mais ils sont à la grecque indiqués par une lettre de l'alphabet, hein, et non pas par un numéro comme nous faisons aujourd'hui. Ce livre s'adresse au niveau débutant, parce que tout à l'heure on disait que cette collection visait tout public, et je le confirme, effectivement, quand on connaît le grec, on n'a aucun mal à lire très rapidement tout ça, mais quand on débute, vous avez fait en sorte que c'est écrit au présent, le lexique est assez, je dis pas transparent, mais simple, les phrases aussi sont simples, de sorte que sans aucun découragement, il me semble que quelqu'un, évidemment, la précaution, c'est de dire qu'il a acquis la connaissance de l'alphabet et la possibilité de déchiffrer rapidement, mais que quelqu'un
Oui, tout à fait.
peut très bien s'en sortir, alors en consultant soit le va-et-vient bilingue, soit en se lançant en classe peut-être avec le professeur dans un apprentissage plus serré de tas de choses qui vont entourer ce texte. De sorte que ben, l'ouvrage est vraiment très agréable et s'adresse vraiment à des gens qui ne sont pas forcément des grandes pointures en grec, pas du tout. Vous aviez visé ce public
Oui,
débutant.
non, c'est tout à fait ce qu'on a visé et c'est ce que nous ont demandé les belles lettres dès le départ et c'est ce qu'a cherché à faire dès le départ dans sa rédaction Angélique et c'est ce qu'on a fait ensemble après en relisant. Alors ça donne parfois évidemment en français, nous on était un peu presque critiques par rapport à nous-mêmes, un texte qui est gentillé parce que bon le but évidemment n'est pas de faire une littérature en français qui soit compliquée. En revanche, en grec, ça fait quelque chose de tout à fait accessible et qui est clair. Voilà, bien
Alors,
sûr.
j'ai dit simple, mais pas simpliste, hein, puisque dans tout ce qui apparaît grammatical, eh bien, on arrive d'une manière très claire à approcher des choses comme la proposition infinitive, le génitif absolu, des choses qui sont incontournables dans la phrase grecque et qui pourraient sembler difficiles et qui ne le sont pas du tout. Vous les expliquez très clairement. Donc, je vous félicite déjà pour cet objectif qui me semble parfaitement atteint. On va marquer une petite pause musicale. Avec une musique peut-être un petit peu vieillotte maintenant, c'est Vangelis, un compositeur grec. Et vous aurez compris que si je l'ai choisi, c'est d'abord et avant tout parce que c'est un grec reconnu dans le monde de la musique électronique, un grec qui s'est illustré dans la musique de film. Et c'est le cas pour cet extrait très 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 connu. Quand les auditeurs vont l'entendre, ils sauront qu'ils l'ont toujours connu. Extrait donc du début du film des Chariots de feu, The Chariots of Fire, en 1981. C'est une deuxième raison aussi qui m'a poussée à choisir cette musique, c'est qu'il y a question de sport dans cette histoire, puisque c'est deux jeunes qui vont courir, deux sportifs. Et enfin, il est question de tolérance, et il me semble qu'aujourd'hui, il faut plus que jamais en parler, puisque l'un des athlètes qui court est juif et victime d'un certain antisémitisme. Hélas, on connaît ça aujourd'hui encore. Et l'autre, le premier, c'est un Anglais juif. Et l'autre est un chrétien qui est tout à fait engagé, écossais, engagé dans sa foi. Et tous les deux, malgré leurs différences, unis par le sport, vont participer à des Jeux olympiques. Donc, on écoute cet extrait musical et on se retrouve ensuite. Alors, chers auditeurs, vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus avec Antiquissimo et avec deux auteurs, Angélique Nouvelle et Flavien Villa, qui viennent nous parler de leur bébé tout nouveau-né, les Jeux Olympiques ou l'incroyable histoire de Kallipateira dans la vie des classiques, les petits grecs, collection des belles lettres. Donc, on a déjà dit pas mal de choses sur ce livre, mais on parlait de ce personnage, donc Kallipateira, dont vous disiez qu'il n'était pas le sujet de votre thèse, Flavien, mais que c'est un personnage qui existe.
Oui, c'est un personnage en fait qui vraisemblablement a existé. Son histoire est rapportée dans trois textes d'époque impériale, c'est-à-dire entre le 2e et le 3e siècle après Jésus-Christ. Et il rapporte l'histoire d'une femme qui, elle, serait plutôt de la fin du 5e et du 4e avant Jésus-Christ. Donc ce ne sont pas forcément des textes que l'on peut croire absolument. Il y a une volonté aussi de recréation, mais on peut retracer au moins sa famille. Et c'est effectivement une femme rhodienne qui a certainement existé.
Donc une femme rhodienne, monde grec, qui va à Olympie pour les fameux Jeux Olympiques. Évidemment, il serait grotesque ici de raconter en 10 minutes en plus, ce n'est pas possible, l'histoire des Jeux Olympiques. Il n'y a qu'à parcourir, étudier votre livre pour apprendre beaucoup de choses. Moi, je voudrais en cibler quelques-unes. Donc, une héroïne qui pourrait être vraie, en tout cas, si elle n'a pas vraiment existé, il en est d'autres de son genre qui ont dû exister. De ces femmes donc, qui se mêlent à l'aventure olympique alors qu'il n'y a pas vraiment droit.
elles
Il y
n'ont
a...
aucun droit finalement d'être aux Jeux Olympiques quand elles sont mariées, c'est-à-dire quand elles sont comme Kalipateira. Si ce sont des jeunes femmes, c'est-à-dire des femmes non mariées, il y a la possibilité certainement d'assister aux Jeux Olympiques. Alors après, c'est un texte très disputé pour les Agnès, bon, hein, c'est un problème entre historiens, mais certainement elles peuvent y aller. En revanche, en tant qu'épouse, comme elle est le Kalipateira, elles n'ont pas le droit d'entrer.
Donc cette femme brave les interdits et montre un certain courage. Pourquoi le fait-elle alors?
Alors notre histoire, c'est qu'elle doit accompagner en fait son fils. C'est ce qui est raconté en tout cas par les auteurs grecs hein, qui parlent de l'histoire. Donc c'est une histoire réelle pour
Donc
eux,
son
en
fils
tout cas,
Peisirodos.
Parce que son... Il s'appelle Peisirodos, oui c'est ça, voilà, parce que son mari, le mari de Kalipateira, est mort. Donc elle n'a personne finalement de proche famille pour aller accompagner son fils qui veut participer aux Jeux Olympiques, alors qu'elle-même est d'une famille très connue d'athlètes. Son père a été vainqueur aux Jeux Olympiques, ses frères, son premier fils, son mari certainement aussi, et qu'elle trouve scandaleux que son dernier enfant ne puisse pas continuer cette lignée.
Donc elle va se battre avec courage, et nous, on n'avons pas dessein de raconter toute l'histoire, mais de vous dire que c'est le fil conducteur qui nous mène à entrevoir donc, ces Jeux Olympiques et ces Réalia dont nous parlions tout à l'heure, avec des concours que l'on dit stéphanites. Qu'est-ce que ça veut dire des concours stéphanites?
Alors ça veut dire des concours où on gagne une couronne, en fait, parce que le mot stéphanos en grec, c'est le mot qui désigne la couronne, et c'est le prix le plus prestigieux que l'on peut obtenir dans des concours grecs, celui de gagner une couronne. Alors c'est un prix totalement symbolique, hein. Finalement, par ailleurs, il y a d'autres reconnaissances que donnent les cités ou le sanctuaire une fois qu'on a gagné le concours. Mais c'est quand même le prix qui, symboliquement, est le plus prestigieux et qui est réservé aux quatre grands concours grecs, que sont celui d'Olympie, de l'isthme de Corinthe, de Delphes et de Némée.
Voilà, effectivement, vous détaillez tout cela dans le livre, dans les encarts qui commentent et qui complètent l'histoire, en indiquant que chaque fois, il y a des récompenses différentes. Hein. Et de même, la périodicité de ces Jeux n'est pas la même. Les Jeux pythiques et olympiques, c'est tous les 4 ans, comme les nôtres, qui ont repris ce rythme. Et les Jeux néméens et ismiques, c'est tous les 2 ans. Et pareil,
oui, tout à fait. Oui.
Ils ne concernent pas les mêmes dieux. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les dieux envisagés pour
oui,
ces
oui,
Jeux
en fait, le principe d'un concours, hein, qu'il soit gymnique ou pour de théâtre ou autre, c'est d'être un rituel. Hein. Les Grecs honorent les dieux et le concours n'est là que pour honorer les dieux. Donc, le concours va être en rapport avec le sanctuaire et avec les divinités qui sont honorées dans le sanctuaire et pour avoir des divinités différentes. À Olympie, c'est Zeus. Donc, voilà, c'est un concours pour Zeus. Comme à Delphes, c'est Apollon. Comme à Némée, c'est tout ce qui est Zeus. Alors que sur l'isthme de Corinthe, c'est Poséidon.
Donc, en l'honneur des dieux, on va concourir. Et ce que j'aimerais que vous relatiez aussi à nos auditeurs. Alors, les récompenses,
ah oui.
Vous en avez un petit peu parlé. On va en effet donner des couronnes différentes aux uns et aux autres. Et on va donner aussi des récompenses qui vont permettre d'ériger leur statut. Vous évoquez par exemple les statues de Phidias très connues. Et pour ce qui est des tricheurs, vous indiquez bien quelque chose qu'on remarque tout de suite quand on va visiter le site d'Olympie, c'est qu'un sort particulier leur est réservé. Quel est ce sort?
Oui, ils doivent payer en fait une amende. Et cette amende va servir aux magistrats iléens, ce sont les magistrats qui dirigent les Jeux Olympiques, à financer des statues de Zeus, que l'on appelle Zanès dans le dialecte iléen. Et en dessous de ces statues de Zeus, qui sont nombreuses, hein, donc à l'époque classique, plusieurs tricheurs, on inscrit la raison pour laquelle c'était financé, le nom du tricheur et le jugement qui avait été donné.
Voilà, et alors ce qui est très curieux, quand on arrive sur ce site, on voit ces stèles qui sont assez nombreuses, où le tricheur a l'air de s'exprimer à la première personne et où il dit bah oui, j'ai triché, j'ai fait telle chose, etc. Et effectivement, il est à l'amende, mais pour les siècles des siècles.
Oui, il reconnaît.
Il reconnaît, et nous autres, des siècles après, nous pouvons toujours lui faire honte et en même temps admirer la manière dont est gérée cette histoire de tricherie. Aussi, parlons un tout petit peu pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas grand-chose de cet univers des athlètes. On peut déjà dire que le mot athlète est un mot grec et vous, dans votre livre, il y a beaucoup d'étymologie hein, sur tous ces termes techniques. Mais on pourrait rappeler aussi que le mot gymnos en grec, qui a donné gymnastique et tant d'autres mots, gymnos, c'est nu. Alors, est-ce que ça veut dire que ces athlètes concourent nus?
Oui. C'est la règle, en fait, en Grèce archaïque et classique. On a du mal à savoir à partir de quel moment l'unité athlétique est apparue. C'est encore une discussion d'historien. Mais oui, dans la Grèce classique, les athlètes masculins, les jeunes filles, c'est une autre histoire, concourent totalement nus. Après, il y a un système qui s'appelle la cunodesme, ce qui veut dire littéralement la laisse du chien, qui permet de maintenir en place le pénis, parce que ce n'est pas parce qu'on court nu que l'on veut abandonner toute dignité. Le principe, c'est surtout de maintenir le prépuce en place sur le pénis, car il est important que l'intérieur du pénis soit caché pour les Grecs. Donc la cunodesme, c'est un fil qui s'attache en fait autour du pénis et qui le rabat contre le ventre. Donc ils sont nus, mais avec un accessoire.
D'accord. Donc la notion de pudeur, elle existe, mais ça n'est pas la même que la nôtre aujourd'hui.
Exactement.
Donc peut-être que ça peut en surprendre plus d'un, mais effectivement, c'est quelque chose que l'on doit connaître sur cet univers des Jeux Olympiques, en l'honneur des dieux, avec un idéal qui est toujours le kalos kagatos, c'est-à-dire la recherche du beau et du bon. Hein. Ça anime, quelle que soit la dimension que l'on prend pour cette civilisation grecque, c'est le maître mot de rechercher l'alliance entre tout ce qui fait l'individu, le corps, l'esprit, l'âme, et puis le beau et le bon. Alors, dans la partie, j'allais dire, bien sûr, et c'est pas divisé comme j'ai l'air de le dire dans le livre, hein, ça vient tout à fait naturellement, dans la partie de la langue, il y a quelques aspects. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la grammaire, des temps qui sont utilisés, du génitif absolu, de la proposition infinitive, mais vous intéressez aussi à expliquer l'euphonie de la langue. Alors peut-être que c'est Angélique qui pourrait nous répondre là-dessus, sur l'euphonie de la langue.
Oui, alors l'euphonie de la langue, c'est quand on a évoqué le nu euphonique, en fait, c'est ça dont
vous... Oui, c'est parlé, ça, c'est-à-dire qu'on fait attention à la musicalité à tout prix de cette langue.
Eh bien, en fait, on ne met pas deux voyelles l'une derrière l'autre. Quand un mot finit par une voyelle et que l'autre commence par une voyelle également, on met un nu pour, comme son nom l'indique, faire un joli son euphonique. C'est ça que ça signifie. Et voilà, donc notamment à la fin des formes verbales, par exemple. Pour vous donner voilà, un exemple concret.
De sorte que c'est une langue qui à la fois joue beaucoup sur les sifflantes, les sons claquants, mais aussi sur une certaine harmonie musicale. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Angélique et Flavien, pour ce temps que vous nous avez accordé pour parler de votre livre. Et je lui souhaite beaucoup de succès. Peut-être qu'un jour, on se retrouvera à évoquer, pour l'instant, vous ne le mesurez pas, comment il a pu servir à beaucoup de professeurs, beaucoup d'élèves, mais même, j'allais dire, en dehors de l'aspect scolaire, à beaucoup de gens qui s'intéressent à l'Antiquité. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Écoutez-nous en direct sur Radio Alliance Plus.fr.